Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles au livre de Job. Nous lirons le dernier chapitre, les quelques versets, les 6 premiers versets. Il s'agit de la repentance de Job. Job au chapitre 42. Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout » répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Que l'Éternel bénisse sa parole et que l'Éternel bénisse Gabi qui va maintenant nous parler de sa part.
Bonjour à tous. Vers l'année 1900, il y avait un bandit mexicain qui attaquait les banques du sud du Texas. Je vous parle d'une époque où Chuck Norris n'était pas encore dans les Texas Rangers, pour ceux qui connaissent leur classique. Donc, il échappait systématiquement à la capture et on n'arrivait pas à le saisir. Et les Texas Rangers ont décidé de former un peloton. De recherche spécifique pour essayer de lui mettre la main dessus. Et ces hommes-là sont partis chacun de leur côté et ils ont essayé de le trouver. Et il y en a un qui a réussi à retrouver sa trace. Et qu'il a suivi jusqu'au Mexique, donc où le bandit se rabattait après avoir fait ses forfaits. Il va le localiser dans un bar de son petit village. Il va réussir à s'introduire dans ce bar discrètement, à arriver jusque derrière lui. Il sort son revolver, il lui met près de la tête, il lui dit « Maintenant, bon, je sais qui tu es, pas besoin de me raconter d'histoire. Alors maintenant, tu as le choix, soit tu me dis où tu as mis l'argent que tu as volé à toutes les banques, soit tu es un homme mort. Et il n'y a rien qui se passe, curieusement, c'est que notre ami, si c'est notre ami, c'est que ce bandit ne parlait que l'espagnol. Et donc, il ne comprenait pas l'anglais. Et pour lui, on ne savait pas ce qui lui avait été dit. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est proposé, un jeune homme qui s'est proposé, là, qui était dans le bar. Il a dit, si vous voulez, moi, je parle anglais, je peux lui traduire ce que vous avez dit. Donc, le ranger lui dit, vas-y, dis-lui. Et donc, il lui traduit. Le ranger lui dit, il faut qu'il dise avec précision où c'est qu'il a mis l'argent. Hein, on ne va pas chercher longtemps, je suis pressé. Donc, il faut qu'il explique clairement. Et donc, le traducteur traduit, et on voit que le bandit qui s'appelait Jorge Rodriguez parle pendant un moment. Le ranger commence à être impatient. Il dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il nous dit? Et le bandit était en train de dire au traducteur qu'il était mort de peur, qu'il était terrorisé d'avoir un revolver sur l'arrière de sa tête et qu'il était prêt à collaborer. Et il lui explique exactement où il avait mis l'argent. Il lui dit, j'ai pas touché un seul dollar. Il y a tout qui est là. C'est un petit peu à la sortie du village, à côté de telle maison, près de telle pierre. Vous allez trouver l'argent. Et le traducteur répond au ranger qui lui posait la question. Il lui dit, Rodriguez dit qu'il est brave et courageux, qu'il ne parlera jamais et qu'il est prêt à mourir. Vous voyez, il faut se méfier des traducteurs. Ça, on le savait déjà pour ceux qui ont été dans les pays où on est obligé de se faire traduire. Des fois, on nous conseille un traducteur plutôt qu'un autre parce que où on est obligé de se faire traduire. Des fois, on nous conseille un traducteur plutôt qu'un autre parce que on nous dit un tel, il raconte son histoire. Il dit pas la même chose que ce que tu dis toi. Donc, c'est vrai que là, en l'occurrence, il y avait un intérêt à aller chercher l'argent pour son propre compte. Et le fait de ne pas connaître une langue ou de ne pas connaître quelque chose, de manquer d'une compétence, d'une connaissance, n'est pas aussi tragique que dans l'affaire de notre bandit. Connaissance n'est pas aussi tragique que dans l'affaire de notre bandit, mais ça peut entraîner des conséquences importantes. On sait que dans la vie de tous les jours, bon, la compétence, la connaissance est quelque chose qui peut faciliter la vie. On voit rarement des gens qui sont très compétents ou qui maîtrisent faciliter la vie. On voit rarement des gens qui sont très compétents ou qui maîtrisent une science ou qui maîtrisent un métier, qui maîtrisent une compétence quelconque, qui pointent à la NPE. C'est plutôt des personnes qui n'ont pas acquis une certaine compétence, qui n'ont pas acquis un certain savoir-faire ou une connaissance particulière. Et donc, cette compétence est nécessaire, cette connaissance est nécessaire, et si elle est nécessaire dans la vie de tous les jours, elle est aussi nécessaire sur le plan spirituel. Jésus dira quelque chose dans Jean 17 au verset 3, il dira, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc il y a une connaissance, cette connaissance spirituelle aboutit, la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus aboutit à la vie éternelle. C'est essentiel, finalement. Pourquoi nous sommes ici ce matin ? C'est pas simplement pour m'entendre parler, c'est pas simplement pour venir, je dirais, fréquenter ou retrouver des personnes que nous aimons bien, que nous connaissons bien. Si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons louer Dieu et nous voulons être avec lui jusqu'où ? Jusque dans la vie éternelle. Et donc, cette connaissance est importante, est essentielle. Et c'est un peu ce dont parle l'apôtre Paul aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens, vous savez, sont assez proches. On retrouve un peu les mêmes thèmes. On pense qu'elles ont été écrites un peu en même temps. Et on trouve dans les Éphésiens, dans l'introduction, dans les salutations, à la fin de son introduction, Paul va parler de cette connaissance. Si vous voulez, on va lire ensemble le Éphésiens au chapitre 1, le premier chapitre des Éphésiens, du verset 15, disons, jusqu'au verset 18. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qui illumine les yeux de votre cœur. J'arrêterai là parce que c'est qu'une seule phrase depuis jusqu'au verset 23, donc je la découpe un peu. Peut-être nous reviendrons sur l'autre partie dans une autre prédication. Qu'est-ce qu'il nous dit là ? Il nous dit qu'il a entendu parler. L'apôtre Paul est probablement en prison à l'époque. Il a quand même, des informations qui lui arrivent. Et il a entendu parler de la foi des Éphésiens. Alors c'est probablement pas l'église d'Éphèse qu'il a plus ou moins fondée. Vous vous rappelez quand il est passé à Éphèse avec cette révolution qui a été créée par les fabricants d'objets de piété là. Et à propos du temple de Diane, et bon, c'est peut-être une autre Éphèse, je ne sais pas, je suis pas spécialiste, mais il la connaît peut-être pas bien, il a peut-être pas fondé cette église, mais il en entend parler et il dit, il rend grâce à Dieu, pourquoi ? Parce qu'il entend parler de la foi et de l'amour de ses Éphésiens. Il est là en prison et quelque chose qui lui donne un peu de joie, qui lui donne un peu de liberté finalement dans cette situation, c'est de pouvoir louer Dieu parce qu'il entend parler de ces églises qui manifeste de la foi et de l'amour. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous regardent en tant que communauté, en tant qu'Église, et qui rendent gloire à Dieu parce qu'ils se disent « cette Église de Damary, vraiment, ça me réchauffe le cœur et je remercie Dieu parce qu'elle existe, parce qu'elle est là, parce qu'elle fait, parce qu'elle me fait peut-être, parce qu'elle me réconforte. » C'est ce réconfort-là que l'apôtre Paul reçoit de la part de ces églises, de cette église, et il en remercie Dieu. Il ne se contente pas simplement de remercier Dieu, de dire « bon ben, tout va bien, cette église va bien, d'autres vont bien, eh ben, elles n'ont qu'à continuer comme ça, et puis tout ira pour le mieux. Ma propre situation est peut-être mauvaise, mais les églises et la mission de Dieu se développent, et donc c'est ça qui est important. » Puisque je suis le prédicateur, je suis un prédicateur de l'Évangile. Si l'Évangile se répand, c'est donc que tout va bien. Il ne fait pas que ça. Il dit quoi, en plus ? Il dit qu'il rend grâce à Dieu et qu'il va quoi faire ? Il va, oui, prier. On dit qu'il va prier. Il va prier pour cette communauté. Il va prier peut-être pour des individus qu'il connaît dans cette communauté. Et c'est encore une autre façon de montrer son intérêt, de montrer son intérêt à la fois pour la communauté et à la fois pour cette mission qui lui est confiée de répandre l'Évangile dans ce monde qui n'est plus le monde des Hébreux, mais qui est le monde de ceux qui ne viennent pas du judaïsme. Et il va prier pour la communauté. Alors ce que nous pouvons nous dire, nous, est-ce que nous prions, nous, pour notre communauté ? Nous allons avoir une campagne, Nous allons avoir une campagne, On l'a annoncé, on l'a dit, on va avoir toute une semaine de campagne. Quand les personnes vont venir, est-ce qu'elles vont pouvoir rendre gloire à Dieu pour cette communauté ? Est-ce que nous pensons à prier pour les personnes qui vont venir ? Les personnes que nous avons peut-être invitées ? Les personnes peut-être qui viendront parce qu'elles ont entendu parler de ça, peut-être nous ne les connaissons pas. De façon plus large, est-ce que nous prions pour nos enfants ? Est-ce que nous prions pour notre conjoint ? Est-ce que nous prions pour nos parents ? Est-ce que nous prions pour nos voisins ? Est-ce que nous prions pour les personnes qui ont entendu parler, auxquelles nous avons peut-être dit un mot ici ou là, pour que ce mot puisse éclore, puisse germer, puisse produire des fruits. Et cette prière montre l'intérêt, les prières que nous pouvons faire, nous n'apprenons rien à Dieu, bien entendu. Mais elle montre l'intérêt que nous avons pour notre communauté, l'intérêt que nous avons pour le salut des autres, pour notre propre famille et pour ceux qui nous entourent. Et la prière est donc fondamentale, c'est donc un élément qui est au cœur de la relation et au cœur de la vie chrétienne, au cœur de la spiritualité de chacun d'entre nous. Nous savons que la prière, nous répétons, nous savons par cœur, c'est la respiration de l'âme, c'est le téléphone du ciel, nous avons beaucoup d'expressions, mais est-ce que nous décrochons ce téléphone ? Est-ce que dans notre vie, il y a du temps pour prier pour la communauté maintenant qu'on veut faire un effort d'évangélisation particulier. Et ça, c'est important de le mettre en premier dans nos préoccupations. L'apôtre Paul prie, il prie pour cette communauté, et cette communauté apparemment a déjà la foi, a déjà de l'amour, il le dit, il a de bonnes nouvelles. Donc pourquoi prie-t-il ? Il semble que la communauté soit parfaite, quoi, plus ou moins. Alors pourquoi prie-t-il ? Il demande quoi ? La connaissance que cette communauté puisse progresser dans quoi ? Dans la connaissance de Dieu. Elle puisse progresser dans cette connaissance par quel moyen ? J'invente pas, c'est écrit dans le texte qu'on vient de lire. Voilà, ouvrir, illuminer les yeux du cœur, il dit, et quoi ? Recevoir l'esprit de sagesse et de révélation. Ah, c'est dur à sortir, C'est recevoir l'esprit de sagesse et de révélation. Ah, c'est dur à sortir, hein. C'est recevoir l'esprit de sagesse et de révélation et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Un esprit de sagesse, de révélation, on pourrait dire, il y a d'autres traductions qui disent de discernement spirituel. Ce discernement spirituel et cette sagesse va permettre de connaître Dieu. L'aboutissement, c'est de connaître Dieu. Alors on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il prie pour que la communauté connaisse Dieu ? En fait, elle connaît Dieu. Ce sont des gens qui sont convertis, qui ont la foi, qui ont de l'amour. Alors qu'est-ce que ça veut dire prier encore pour qu'ils connaissent Dieu ? Qu'on prie pour des personnes qui n'ont jamais été en contact avec ce Dieu, d'accord, mais pourquoi prier pour la communauté ? Prier pour des gens qui sont convertis ? Prier pour des gens qui sont convertis. Est-ce que c'est utile? Alors je vois des têtes, oui, c'est très utile. C'est utile pourquoi? Parce que Jésus disait la connaissance de Dieu. C'est utile pourquoi? Parce que Jésus disait la connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. Albert Einstein disait quelque chose qui est intéressant dans ses discours et entretiens. Il disait ceci, la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? On peut avoir un certain nombre d'informations sur Dieu. On peut avoir toutes les informations qu'on veut, on peut connaître toutes les théories, tous les dogmes, tout ce qu'il faut savoir, intellectuellement sur Dieu. Mais ça peut ne rester que une information, une théorie. Je sais tout, mais ça n'a pas d'impact sur ma vie. Cette théorie doit devenir une connaissance, et pour devenir une connaissance, il nous dit, il faut qu'elle s'acquiert par l'expérience. La connaissance de Dieu, ce n'est pas simplement une connaissance théorique, c'est pas simplement, bien entendu, quand on se convertit, on apprend un certain nombre de choses sur Dieu. On apprend un certain nombre de vérités, entre guillemets, mais ça ne suffit pas. Il faut rentrer dans la connaissance de Dieu. Pourquoi rentrer dans la connaissance de Dieu ? Parce que tout dépend de l'image de Dieu que nous pouvons avoir. Cette image de Dieu va donner un sens à notre vie. Et plus nous progressons, c'est ce que nous avons dit à l'école du sabbat encore ce matin, plus nous progressons vers ce Dieu qui est amour, ce Dieu qui est liberté, ce Dieu qui veut nous élever, plus notre vie, nos actions, nos plans, nos projets auront tendance à se rapprocher, disons, auront tendance à intégrer ces notions dans la vie, et à ce moment-là, ce ne sera plus une connaissance intellectuelle, ce sera la manifestation de Dieu dans notre vie. Et la connaissance de Dieu, c'est de savoir discerner par les yeux du cœur et par la sagesse qui vient de Dieu, et la spiritualité, la perspicacité spirituelle, de savoir discerner qui il est et comment il agit réellement dans notre vie. Non pas savoir des théories, mais le voir sa main dans notre vie. Et c'est là le plan de Dieu, c'est là ce que Dieu recherche. La religion, c'est pas simplement un savoir, c'est une fréquentation de ce Dieu, c'est une inspiration. Alors dans certaines traductions, le mot esprit, un esprit de sagesse, le mot esprit est mis en majuscule. C'est-à-dire c'est ce Saint-Esprit qui va donner la sagesse et qui va ouvrir le cœur à la perception de l'action de Dieu dans ma vie, à la perception de ce qu'il est pour moi. Je peux me faire un Dieu à ma mesure. Je peux facilement me faire un Dieu à ma mesure. D'ailleurs, nous le faisons. Il y a une citation qui est celle-ci. Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. C'est-à-dire qu'il s'est fait un Dieu à son image aussi. Et tant que nous ne dépasserons pas ce stade, tant que nous sommes dans la création d'un Dieu qui nous convient, qui est à notre mesure, et que nous ne sommes pas allés jusqu'à savoir qui est ce Dieu, à le voir agir dans notre vie, à intégrer cette connaissance non plus de façon théorique, mais de façon pratique dans notre vie, nous n'aurons pas accès à cette vie éternelle. La connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. Et c'est pas une menace, c'est pas pour faire peur, au contraire. C'est comme disait Osée, c'est pour essayer de ramener le peuple. C'est pour essayer de nous ramener vers lui, vers une réalité qui nous dépasse, mais cette réalité peut changer notre vie. Comme là, Paul est dans son introduction, il va reprendre cette idée un petit peu plus loin dans le texte. Et si nous lisons au chapitre 3, si vous voulez lire avec moi au chapitre 3 des Éphésiens, à partir du verset 13 pour être plus cohérent, « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, à Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » C'est un programme extraordinaire. Il dit là que l'Esprit va pouvoir agir dans l'homme intérieur, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. L'apôtre Paul pourra le dire, dans Galates 2:20, il dit quoi ? « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Il est dans cette expérience-là de connaissance de Dieu, mais une expérience qui va changer. Il est dans cette expérience-là de connaissance de Dieu, mais une expérience qui va changer sa vie. Qui ne va pas simplement modifier quelques aspects extérieurs, qui ne va pas modifier certains types de comportements pour les rendre un peu plus compatibles avec ce qu'il dit. Non, ça va bouleverser sa vie intérieure à tel point que il dit « Vous serez enraciné et fondé dans l'amour ». C'est-à-dire que cette connaissance de Dieu n'est pas simplement de découvrir qui il est, mais elle a un pouvoir transformateur sur ma vie. C'est-à-dire que plus je découvre qui est Dieu, transformateur sur ma vie. C'est-à-dire que plus je découvre qui est Dieu, plus je me laisse aller. C'est-à-dire que plus je découvre qui est Dieu, plus je me laisse aller entre ses bras, plus je me laisse investir, plus mon esprit découvre les mystères de Dieu, plus je suis transformé à son image. Et dans cette expérience-là, il nous dit qu'on peut aller jusqu'où ? Il dit que Dieu veut nous conduire jusqu'où ? Il dit que Dieu veut nous conduire jusqu'où ? Jusqu'à la plénitude, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ah, souvent on dit la religion, bon, ça vous empêche d'être heureux, ça vous empêche de goûter au plaisir de la vie, ça vous empêche, vous êtes un petit peu, marginaux, vous êtes pas très développé intellectuellement, parce que sinon vous accepteriez pas toutes ces choses. Et là on nous dit exactement... Et là, on nous dit exactement le contraire. L'apôtre Paul, qui passe par cette expérience, qui dit « Christ habite en moi », qu'est-ce qu'il dit ? Dieu peut vous remplir jusqu'à toute la plénitude jusqu'à tout ce qui, il peut vous remplir jusqu'au-delà de la situation humaine, il peut aller au-delà, il peut aller jusqu'au-delà de la situation humaine, il peut aller au-delà, il peut aller jusqu'à la situation divine, il peut vous transformer entièrement. Et cette puissance-là, Dieu veut la donner, et c'est connaître Dieu, c'est rentrer dans ce mode de transformation de la vie, c'est devenir actif vis-à-vis de Dieu, actif vis-à-vis de l'amour, actif vis-à-vis de la foi, avoir des projets qui sont conformes aux projets de Dieu. C'est vrai que quand on va lancer une campagne d'évangélisation, souvent on se dit, bon, si les gens viennent, est-ce qu'ils vont trouver... on a des fois un peu peur que les gens se fassent une idée en disant, bon, on va rentrer dans une église de saints, de gens qui sont parfaits. Il n'est pas question d'être parfait par ses propres forces, il n'est pas question d'être saint, il est question de laisser Dieu transformer nos vies. Et ce processus-là de transformation de la vie, c'est ça qui va être communiqué à d'autres. Ils vont partir d'un point, ils vont aller vers un autre point. Ce sera leur cheminement personnel. Comme moi, c'est mon cheminement personnel. Comme vous, c'est votre cheminement personnel. Mais cette connaissance de Dieu ne peut pas ne pas changer la vie. Est-ce que vous y croyez ? Elle peut absolument changer la vie. Et si elle ne change pas la vie, je veux dire en profondeur, c'est que il n'y a pas d'attachement réel. C'est qu'on n'a pas fait le pas du lâcher prise. De dire Seigneur, je me... Du lâcher prise. De dire Seigneur, je me remets entre tes mains, éclaire-moi. Montre-moi qui tu es et je veux te suivre. Ça, c'est d'importance capitale, je dirais, et c'est ce que Job a fait comme expérience. On a lu dans le texte qui nous a été lu, Job va perdre sa santé, il va perdre ses amis, ils lui conseillent de renier Dieu pratiquement, enfin, ou lui disent, bon, t'as quelque chose que tu nous caches, hein, t'es pas honnête. Et il va perdre le soutien de son épouse, il va perdre ses biens, il va perdre ses enfants. Et il est là, comme une pauvre chose, à se gratter avec des tessons de bouteilles, de poterie, et à prier Dieu sans comprendre ce qui lui arrive. Et au moment de ce dialogue, de ce dernier dialogue avec Dieu, il va découvrir quoi ? Dans ce texte qu'on a lu, il va découvrir la véritable connaissance de Dieu. Et je veux juste reprendre cette affirmation qu'il fait, jusqu'ici, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Par oui dire, je savais que tu existais. Pourtant, Dieu dit, c'est un homme intègre, c'est un homme juste. Et lui, a comparé avec ce qu'il voit maintenant de Dieu, dans ce dialogue avec Dieu, dans cette intimité avec Dieu, il dit... Ce que je savais, c'était pas ma connaissance à moi, c'était de l'information. Par oui dire. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Maintenant, je sais vraiment qui tu es. Et je me repens. Je me repens pourquoi ? Parce que je ne te connaissais pas. Je ne connaissais pas comme tu es. Je ne te connaissais pas. Pas comme tu es. Je ne te connaissais pas. Pourtant, je croyais te servir, je te servais. Mais je ne te connaissais pas au fond de moi-même. J'avais pas cet esprit qui est sur moi et qui me permet d'ouvrir les yeux du cœur et de te voir tel que tu es. Et ça c'est l'expérience qui est à notre portée, qui nous est proposée. C'est l'expérience qui est à notre portée, qui nous est proposée. Pas l'expérience simplement intellectuelle, une expérience de la vie de tous les jours. Et si nous arrivons à communiquer ça aux personnes qui vont venir ici, c'est le trésor, c'est le plus grand trésor que nous pouvons leur communiquer, de rentrer dans l'intimité de Dieu, de faire en sorte que leur vie soit cachée, soit intime avec Dieu, et que leurs projets soient soumis, soient cachés, soient intimes avec Dieu, et que leurs projets soient soumis à cette volonté de Dieu. Et alors, la vie, le sens de la vie changera, et alors la vie éternelle sera à leur portée, comme elle est à notre portée. L'apôtre Paul est rentré dans ce cheminement, on l'a dit. Il a reçu cet Esprit de Dieu, il a chéri cet Esprit de Dieu, il s'est soumis à cet Esprit de Dieu, et il a progressé dans sa connaissance, dans cette connaissance de Dieu, et il dira à la fin, dans 1 Timothée 12, là c'est vraiment la fin de sa vie, c'est peut-être quelques jours,